Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditeurs et auditrices de Nantes ou d'ailleurs, bienvenue sur la planète de la Ligue des droits de l'homme, section nantaise. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Myriam et Elodie pour causer des droits des enfants. L'année 2022 a été riche en revendications pour défendre les droits des enfants et l'année 2022 n'est pas terminée. Alors profitons de ce mois de novembre dont le dimanche 20 est le rendez-vous annuel de la Journée internationale des droits de l'enfant pour marquer une pause et voir ce qui se passe pour les enfants sur la planète de la Ligue des droits de l'homme. Ce mois-ci, une fois n'est pas encore coutume, nous allons interroger les Nantaises et les Nantais d'un jour pour en savoir plus. Bonjour.
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 Bonjour. Bonjour.
Savez-vous quels sont les droits des enfants ?
Genre aller aux toilettes, quoi.
Ils ont soif.
Je pense qu'ils ont le droit de s'acheter des jouets avec leur argent, quoi.
D'aller dans une autre ville.
Prendre soin d'eux. Et surtout les écouter. Parce que moi, ce que je ressens au niveau de tout ça, c'est que les enfants sont vachement décrédibilisés au niveau de leur droit d'écoute parce qu'on joue sur leur âge.
De jouer, d'aller voir des spectacles.
Ils ont le droit de griller des chamallows avec leurs parents.
Le droit à une éducation, que les parents s'occupent d'eux convenablement.
Oui, les enfants ont des droits, mais je trouve qu'actuellement, ils en prennent beaucoup, beaucoup de droits. Je trouve que quelquefois, les parents sont trop laxistes, laissent beaucoup trop de droits par rapport à une discipline, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, de savoir mieux les cadrer.
Alors, c'est une leçon que mon fils a appris à l'école, et donc il y a le droit de manger, le droit de s'habiller, le droit à l'éducation, et les autres, je ne sais plus, mais je crois qu'il y en a 10.
Le droit à être logé, peut-être, aussi. Le droit de vivre dans la dignité, en fait. Il y a peut-être effectivement des choses qui sont assurées de façon à ce que les enfants puissent vivre dans la dignité.
Pouvez-vous, Elodie et Myriam, nous dire si tous les droits des enfants ont été cités ?
Dans le micro-trottoir, dès le début, il y a un petit enfant qui dit « le droit d'aller aux toilettes ». Eh bien, oui, ça suppose qu'on ait des toilettes ou qu'on ait même une salle de bain. Il y a « aller aux toilettes » et il y a « faire sa toilette ». Il y a un autre enfant qui parle du droit de manger des chamallows avec ses parents. Le fait d'être dans des bonnes conditions avec ses parents, de pouvoir s'amuser, de pouvoir manger. Dans le micro-trottoir, le monsieur parle de l'importance d'écouter les enfants, qui sont souvent décrédibilisés à cause de leur âge. Et justement, effectivement, la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui était important, c'était d'isoler l'enfant à l'adulte parce que l'enfant est vulnérable. Et donc, c'était important de considérer ses droits plus fortement que ceux des adultes. On peut faire le pont aussi sur la scolarisation, le droit à l'éducation. Si on donne quelques chiffres, à Nantes, par exemple, il y a 1000 enfants qui sont en bidonville et 116 seulement sont scolarisés.
Alors, quand on parle du droit des enfants, il faut, là, en ce mois de novembre, parler de la Convention internationale des droits des enfants, la CIDE, dont nous allons fêter le 33e anniversaire, le dimanche 20 novembre. Elle a été signée, en effet, le 20 novembre 1989 par 196 États et ratifiée notamment par la France. Alors, la CIDE, elle repose sur 4 principes. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui était un concept tout à fait nouveau à l'époque, le droit à la vie, à la survie et au développement, et les respects des opinions de l'enfant sur toute question qui le concerne. Concernant les droits qui ont été évoqués dans ce micro-trottoir, ils y sont presque tous, il y en a 10 en tout, dans cette convention des droits de l'enfant. Si je peux tous les citer, il y a le droit de vivre en famille, d'être entouré et aimé, le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, le droit d'être soigné, protégé des maladies et de la malnutrition, le droit à l'éducation, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Le droit à un niveau de vie suffisant. Le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir. Le droit d'avoir un refuge et d'être secouru. Le droit de jouer et d'avoir des loisirs. Et enfin, le droit à la liberté d'expression et de penser.
D'après vous, tous les enfants y ont-ils accès de la même manière ?
Non, parce qu'en fait, déjà, faut être poli, il faut être gentil et tout.
Non.
Parce que si les parents ne veulent pas, et non.
Et ça dépend effectivement s'ils sont chez leurs parents ou s'ils sont dans un établissement d'accueil, peut-être, effectivement. Il y a peut-être des choses qui sont un peu différentes.
Encore une fois, c'est le côté humain qui parle. C'est le côté savoir écouter un être humain malgré l'âge et malgré toutes ces choses-là, quoi. Donc il y en a qui sont réceptifs et d'autres non.
Ça dépend des pays. Il y a des pays où ils travaillent, tout ça, donc ils peuvent pas avoir les mêmes facilités.
Peut-être pas, parce que tout ce qui est droit à l'habillement, ça va dépendre des fonctions, des budgets des personnes. Le droit au logement, oui, j'espère que tous les enfants sont logés quand même de manière décente. Le droit d'accès à l'éducation, il est quand même gratuit, donc logiquement tous les enfants y ont le droit. Après, certains droits vont dépendre des besoins des parents. Et
suivant les milieux, certains sont plus favorisés que d'autres.
Les personnes que nous avons croisées ont l'air de douter que tous les enfants aient un accès équitable à leurs droits. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Malheureusement, les enfants n'ont pas tous accès aux mêmes droits. Les gens du voyage, par exemple, par rapport au lieu de stationnement, pour certains, ils sont limités à 5 mois. Donc forcément, ça coupe complètement le rythme scolaire. On a parlé tout à l'heure aussi des enfants qui n'avaient pas l'accès à l'eau potable ou même à l'électricité. Donc forcément, qu'on sait que des enfants qui vivent dans des situations précaires vont se retrouver aussi avec une extrême fatigue quand ils arrivent à l'école. J'ai le cas d'un exemple dans une école. Les enfants avaient beaucoup d'asthme. Ils sont à 4 dans une chambre avec énormément de moisies sur les murs. On a aussi les enfants qui vivent à l'hôtel quand les parents sont migrants, donc ils vivent dans une grande promiscuité. On a aussi, alors ça c'est une autre question, les enfants handicapés qui doivent intégrer des classes ULIS. On sait que les classes ULIS sont surchargées. Parlons aussi des enfants en centre de rétention. Faut savoir que depuis 2012, la France a quand même eu 9 condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'enfermement d'enfants pour des simples raisons administratives. Et la position de la Ligue des droits de l'homme est très claire à ce niveau-là. Aucun enfant ne doit être enfermé dans un centre de rétention. Ils n'ont pas été jugés. Il y a les haut-parleurs, il y a les barbelés, il y a les grillages, il y a une présence policière constante. C'est quand même très alarmant, sachant qu'en plus, ici à Nantes, il y a l'éventualité, il y a le projet d'un centre de rétention qui est évoqué. Si on en revient aux droits des enfants, notamment le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et toute forme d'abus et d'exploitation, on a des exemples comme à Mayotte où par exemple il y a des petites filles qui rentrent dans la prostitution dès 8 ans. Comment on peut agir pour empêcher ça ? Il faut quand même évoquer aussi dans les entraves le refus pur et simple de certains maires d'inscrire des enfants pour certains mobiles comme quoi oui mais les enfants vont pas rester longtemps ou ils peuvent pas prendre en charge la cantine ou ils sont dans des lieux qui seront expulsables donc ça ne sert à rien. Faut savoir que en droit international comme en droit européen comme dans le droit français, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Parlons aussi de la crise du recrutement des travailleurs sociaux, des assistants familiaux. Il y a un vrai sous-effectif. On recourt à des professionnels qui sont non qualifiés. Pour les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, ils sont souvent mal payés, ils ne sont pas assez nombreux. Il en manque cruellement dans les écoles. Des fois, les professeurs des écoles se retrouvent à avoir des enfants qui n'ont pas d'AESH.
Sur la base de l'égalité des chances, l'enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit. L'enseignement secondaire accessible à tous dans le respect de la dignité de l'enfant.
Chaque enfant a le droit à un niveau de vie suffisant et à jouir du meilleur état de santé possible.
Chaque enfant a droit au repos et au loisir de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
Les enfants blessés ou victimes de mauvais traitements, de négligence ou de la guerre ont le droit d'obtenir de l'aide pour pouvoir se rétablir et retrouver leur dignité.
Chaque enfant a le droit d'avoir un nom, une identité et d'être élevé par ses parents, sauf s'il est en danger dans sa famille. Il a le droit d'être respecté et protégé contre les violences et les mauvais traitements.
Une société qui ne défend pas ses enfants se met elle-même en danger. Comment les protéger pour qu'ils préfèrent vivre ensemble, à l'école et ailleurs, qu'ils choisissent le débat et la paix plutôt que la colère, l'emportement et le déchaînement contre l'injustice? Les enfants mal protégés, ce sont davantage d'adultes vulnérables, de drames humains, de personnes sans abri et incapables de travailler. Ce n'est que parce qu'ils peuvent vivre leur liberté qu'on fera de nos enfants des citoyens capables de défendre la démocratie.
Pouvez-vous nous dire, Myriam et Élodie, quelles sont les actions de la Ligue des droits de l'homme dans la défense des droits des enfants ?
La LDH, elle défend l'indivisibilité des droits, donc c'est évident qu'on lutte également pour le droit des enfants et pour qu'ils soient respectés. Au niveau local, c'est beaucoup au sein de collectifs, donc Rome Europe notamment, concernant la scolarisation des enfants en bidonville. On fait aussi pas mal d'interventions en milieu scolaire. On intervient auprès des enfants, on a un groupe qui s'appelle le GPEC. Donc on va sensibiliser les enfants, leur montrer qu'ils ont des droits, leur apprendre à lutter pour qu'ils soient respectés notamment. À Nantes aussi, la LDH est très active au niveau des MNA, les mineurs non accompagnés. Après, au niveau national, le rôle de la LDH, c'est d'interpeller les institutions pour dénoncer les situations de non-droit et exiger de l'État, des institutions, qu'ils respectent ses engagements, leurs engagements et leurs obligations par des actions et toutes les choses possibles. La LDH plaide pour la création d'un grand ministère dédié aux enfants. Actuellement, on a juste une secrétaire d'État qui est placée au 28e rang protocolaire du gouvernement. Les attributions des politiques de l'enfance sont éparpillées entre différents ministères. Nous plaidons également pour l'institution d'un code de l'enfance, un genre de plan Marshall pour extirper 3 millions d'enfants et leurs familles de la pauvreté en France.
Lorsque les familles sont logées en squat, en campement, en habitat précaire, à l'hôtel, souvent les demandes de scolarisation, les demandes de pièces à fournir sont complètement abusives. Et là, s'il n'y a pas d'association dans le coin, comme là notamment la Ligue des droits de l'homme, ça devient très compliqué. On a la chance d'avoir quand même avec le collectif Rome Europe des militants qui aident vraiment à faire un travail pour remplir toutes les démarches administratives qui peuvent paraître géantes. On sait qu'il y a un vrai souci au niveau des hébergements d'urgence. L'État explique justement la baisse de ses places d'hébergement en contrepartie du déploiement du plan logement d'abord. Mais il faut savoir que les logements sociaux sont encore beaucoup trop rares. Donc le droit au logement est reconnu dans la loi, il doit être respecté.
Nous, les pierres rousses de la cour qui faisons ce récit, nous nous sommes attachés aux enfants. C'est eux que nous souhaitons raconter. Enchaînés dans le mur, nous surplombons leur vie. Depuis des millénaires, nous sommes les témoins. Les enfants sont toujours les oubliés d'une histoire. On les rentre comme des petites brebis. On les écarte plus qu'on ne les protège. Or, les enfants sont les seuls à prendre les pierres pour des jouets. Ils nous nomment, nous bariolent, nous couvrent de dessins et d'écritures. Ils nous peignent, nous collent des yeux, une bouche, des cheveux d'herbe, nous empilent en maison. Nous lance pour faire un ricochet, nous aligne en limite de Gaulle ou en rail de train. Les adultes nous utilisent, les enfants nous détournent. C'est pourquoi nous leur sommes profondément attachés. C'est une question de gratitude. Chaque adulte devrait se souvenir qu'il est redevable envers l'enfant qu'il fut.
Nous voilà à la fin de notre chronique sur le droit des enfants. Nous espérons que cette brève immersion dans le monde des enfants vous aura permis d'en savoir plus sur leurs droits et leur application. Nous vous proposons d'ailleurs de continuer la défense des droits des enfants à nos côtés le samedi 19 novembre pour une journée d'action Place Gralin. Nous vous retrouverons ensuite le mardi 20 décembre pour aborder les droits des personnes emprisonnées. Peut-être aurez-vous participé d'ailleurs aux Journées nationales des prisons du 21 au 27 novembre. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons une belle journée au pays des droits et des libertés.
Pourquoi ils n'ont pas le droit de décider comme les adultes, les enfants ?